Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à Cuba où se tient jusqu'au 19 avril le 7e congrès du Parti communiste cubain. Un conclave qui suscite beaucoup de questions parmi les observateurs à un double niveau. D'abord en raison de l'absence du débat traditionnel autour des documents présentés à cette occasion. Seul le millier de délégués qui assistent à l'événement les possédaient avant l'ouverture. Et au-delà, ce 7e congrès se tient alors que les résolutions socio-économiques du précédent congrès de 2011 n'ont été mises en œuvre que dans une infime proportion, 21% seulement de l'aveu même des autorités cubaines. C'est dire le chemin non parcouru et la modestie des objectifs du Congrès qui s'ouvre, lequel n'adoptera plus un plan quinquennal comme dans la vieille tradition soviétique, mais un programme de développement avec pour échéance 2030, une échéance somme toute assez lointaine. D'où cette question. Pourquoi un congrès du Parti communiste cubain maintenant? Sans doute est-ce du côté politique qu'il convient de se tourner avec la légitimation attendue pour un quinquennat supplémentaire du pouvoir des Castro. Nos invités, Jeannette Abel, politologue, spécialiste de Cuba à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Witkowski, président de Cuba Annuel et Cuba Doc Série, publication annuelle consacrée à Cuba. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi donc ce congrès du Parti communiste cubain maintenant et qu'est-ce qu'il faut en attendre, Jeannette Abel?
Pourquoi maintenant? Parce que des changements importants du point de vue institutionnel ont déjà été annoncés par Raúl Castro. Le fait que la génération historique va probablement participer à son dernier congrès. Donc, pour la première fois dans 3 ans, en 2018, il n'y aura plus de Castro, en tout cas ni Fidel ni Raúl, à la direction ni de l'État ni du Parti communiste. Deuxièmement, parce que des réformes économiques importantes ont été engagées lors du 6e congrès en 2011 et que, effectivement, comme vous l'avez dit, ces réformes ont beaucoup de mal à être appliquées et elles entraînent beaucoup de contradictions économiques et sociales et politiques, en fait. Et donc, il est nécessaire de faire le point. Alors, une particularité, c'est qu'avec Raúl Castro, les congrès se tiennent conformément au statut tous les 5 ans, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant avec Fidel Castro et qui renvoie à une vraie différence du point de vue du fonctionnement non seulement institutionnel mais de la caractérisation de cette direction. On y reviendra
juste
peut-être.
Juste en mémoire, entre le 5e congrès et le 6e, 14 années s'étaient passées avant 2011, le précédent remontait à 1997.
Tout à fait. Alors, je voudrais pas faire des considérations trop théoriques tout de suite, mais il est caractéristique que dans un cas, on avait affaire à un leader charismatique, je renvoie aux définitions de Max Weber pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement peut avoir des pratiques assez personnelles et cavalières à l'égard des statuts, des institutions, des réglementations. Ça n'est pas le cas de Raúl Castro, qui est quelqu'un qui, au contraire, préconise un fonctionnement stable, un fonctionnement administratif régulier et qui a justement beaucoup insisté sur le fait que ce congrès se tenait exactement 5 ans après le précédent. Donc, conformément au statut. Et j'ajoute un dernier mot, ce congrès s'ouvre le 16 avril et le 16 avril renvoie à la date anniversaire de la baie des cochons. Et pas seulement de la baie des cochons, de la déclaration par Fidel Castro du caractère socialiste de la révolution. Donc, ça n'est pas un hasard que cette date ait été choisie. Les éphémérides comptent toujours beaucoup à Cuba.
C'est pour ça, effectivement, que l'ouverture du congrès s'est tenue en présence d'une grande manifestation, effectivement, du 55e anniversaire de la victoire de la baie des cochons. Mais ce qui est intéressant, c'est, je crois, qu'au-delà des enjeux économiques et politiques, je crois que le principal défi, c'est effectivement, Jeannette évoquait le charisme de Fidel Castro, c'est comment transformer, au fond, le défi politique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on passe d'une génération historique à une transition institutionnelle de la révolution. C'est un véritable défi. Et que d'autre part, il y a des enjeux économiques majeurs et un renouvellement des générations. Parce que la Benjamin du Congrès a 27 ans, député de Guantanamo. Le doyen est un des héros de la révolution, 92 ans. Moyenne d'âge, 48 ans. Et une grande diversité aussi des secteurs à la la fois du pays représenté à l'occasion de ce congrès.
Alors, juste une précision que je n'avais pas, Jeannette Havel, ce que vous évoquiez tout à l'heure, donc quand on parle de Raúl Castro, j'avais dans l'idée qu'il avait décidé d'abandonner les charges de président du Conseil d'État et des ministres en 2018, mais qu'il entendait conserver la tête du parti communiste cubain qui lui-même se tient au-dessus de l'État et du gouvernement.
On ne sait pas.
Ah.
Il entend conserver, on ne sait pas. Par contre, on sait qu'en principe, c'est Miguel Díaz-Canel qui va lui succéder comme président de la République, mais on ne sait pas qui va occuper le poste de premier secrétaire du Parti communiste. Mmh. Et jusqu'à présent, tant Fidel Castro que Raúl Castro ont cumulé les deux fonctions. Or, ce qui est à peu près, semble évident, certain, je reste un tout petit peu hypothétique puisqu'on n'a pas les textes des résolutions. Mais la séparation du parti et de l'État est à l'ordre du jour. Et donc, en principe, désormais, le premier secrétaire du Parti communiste ne devrait pas être le président de la République. Mais, grande question, on ne sait pas qui peut remplacer Raúl Castro comme premier secrétaire, sachant que celui qui est le numéro 2 du Parti communiste aujourd'hui, Machado Ventura, est quelqu'un non seulement de très âgé, mais de surcroît, quelqu'un dont il est certain qu'il ne va pas continuer très longtemps comme ça. Qui va postuler, qui va être le remplaçant de Raúl Castro et quand? C'est une inconnue jusqu'à présent, et une inconnue très importante, parce que c'est un système de parti unique, un système de parti État, autrement dit, le poste de premier secrétaire du Parti communiste, c'est le poste, en fait, le plus important jusqu'à présent.
Et Raúl Castro, pour nos éditeurs, qui a 84 ans en 2016, donc 86 en 2018. Alors, qu'est-ce que l'on sait de Miguel Díaz-Canel, Stéphane Witkowski, qui possible successeur de Raúl Castro à la tête de l'État?
Vous savez, c'est difficile de dire qu'on est certain du successeur, d'abord parce qu'il y aura un débat au sein du Conseil d'État.
Enfin, c'est un nom qui est
C'est un nom qui est avancé. Et... Alors, effectivement, Miguel Díaz-Canel...
Il est élu, pardon Stéphane, par le Conseil d'État.
Ah, oui, c'est ce que je dis, oui.
Oui, oui.
Il est élu par le Conseil d'État. Voilà. Mais je veux dire que le choix du président du Conseil d'État, qui exerce les fonctions de chef d'État, fait l'objet d'un débat. Donc, je veux dire, on ne peut pas présumé à l'avance du nom de celui qui va succéder à Raúl Castro. C'est un ingénieur de formation, il est un bon technicien, une cinquantaine d'années, pragmatique, c'est un homme qui connaît bien ses dossiers, qui n'est pas très connu sur le plan politique, sur la scène internationale, quelqu'un d'assez discret, qui s'intéresse aux nouvelles technologies.
De toute façon, les frères Castro ont toujours fait beaucoup d'ombre autour d'eux.
Et... Oui, et puis en fait, c'est une autre époque, une autre génération, et d'autre part, il y a d'autres hommes, comme Marino Murillo, qui a une cinquantaine d'années, qui a la haute main sur les réformes économiques actuellement, qui préside la commission économique de l'actualisation du modèle économique cubain, et qui joue un rôle aussi important dans les débats qui auront lieu au cours de ce congrès.
Qu'est-ce que l'on peut dire, Jeannette Havel, de ces dirigeants émergents, d'une certaine manière, puisque, comme vous l'avez dit précédemment, on s'achemine finalement vers la fin de la génération historique, laquelle se retire lentement à la force de l'âge finalement.
Alors, d'une part, une précision sur Miguel Díaz-Canel. Je pense que c'est, sauf bouleversement, mais je ne pense pas, il est maintenant le candidat officiel à la vice-présidence. Il fait très attention, d'ailleurs, dans ses apparitions publiques. Oui. Il est très prudent. Il fait attention à ne pas trop se montrer. Il a une caractéristique importante, c'est que toute sa carrière s'est faite au sein du Parti communiste cubain. Il a été secrétaire provincial, notamment, ce qui est très important comme échelon dans la hiérarchie. Il a occupé donc des postes de responsabilité divers. Il a une vraie formation politique et il représente une garantie de stabilité. Mais c'est la présidence. Alors, Murillo, le responsable de la commission qui est chargée de l'application des réformes économiques adoptées en 2011, c'est un ancien militaire. Et ça, c'est très important de savoir, compte tenu du rôle que joue l'armée sur le plan économique, de sa puissance économique à Cuba, hein, plus de 60% de l'économie est de fait dirigée d'une manière ou d'une autre par un secteur de l'armée cubaine, investi justement sur le plan économique. Donc, il y a des rumeurs concernant Murillo. Je ne sais pas, la question de la succession à la direction du Parti communiste, pour le moment, on n'a pas vraiment de nom. Et on ne sait pas quand elle va avoir lieu. Enfin, elle ne va pas forcément avoir lieu là, encore que Bon, elle devrait avoir lieu à ce dernier congrès, puisque ce sera vraisemblablement le dernier congrès pour cette génération.
Alors, pour ce qui est des évolutions possibles et des discussions sur le plan politique, parmi les changements peut-être en vue, c'est plus de pouvoir donné aux régions et la part qui pourrait être donnée aussi aux citoyens, en tout cas le parti qui pourrait donner aux citoyens la possibilité de choisir parmi des candidats présélectionnés pour des sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça marque un changement réel sur la scène politique cubaine, Stéphane Witkowski ?
Il y aura probablement une volonté d'une plus grande décentralisation, y compris des décisions politiques. Peut-être des réformes, effectivement, quant aux modalités d'élection des élus, notamment dans les conseils municipaux. C'est peut-être un peu prématuré de dire exactement comment les choses vont évoluer. Je crois que ce qui est important, c'est que la nouvelle direction qui prendra les commandes à partir de 2018 essaiera de trouver une légitimité révolutionnaire pour asseoir son pouvoir. Et là, c'est un défi un peu ouvert, sachant que la population cubaine est extrêmement instruite, informée de ce qui se passe, que les débats sont malgré tout très vifs et actuellement dans la presse, dans Cuba Debat, dans un certain nombre d'organes de presse, si on peut dire, les discussions portent beaucoup sur le contenu, sur les modalités, sur le rythme de ces congrès. Peut-être on passerait à tous les 5 ans éventuellement, c'est quelque chose de beaucoup plus régulier. Et en même temps, les grands défis majeurs, notamment l'unification monétaire, est un grand défi que le gouvernement souhaite mettre en place, débureaucratiser, si on peut dire, un certain nombre d'entreprises d'État, renforcer l'initiative privée, mais faire en sorte qu'il y ait des contrepoids pour éviter une domination des investisseurs étrangers, des changements par rapport aux coopératives, notamment agricoles et non agricoles, pour pouvoir accéder à des approvisionnements. Il y a un certain nombre d'autres chantiers qui sont en cours, qui font l'objet de ces discussions dans le pays.
Alors justement, je le disais en introduction de cette émission, les résolutions socio-économiques du Congrès de 2011 n'ont été 5 ans après mises en œuvre que dans une très faible proportion, de l'aveu même des autorités cubaines, 21% seulement. Jeannette Abel, c'est dire toute la lenteur de cette évolution. Qu'est-ce qui explique ces lenteurs ?
Ce qui explique cette lenteur, c'est que le défi économique, social et politique de ces réformes est considérable. Alors pourquoi il est considérable ? Parce que ce sont des réformes qui introduisent plus de marchés, plus d'initiatives privées dans l'économie cubaine, dont il faut rappeler que c'est une économie qui a été étatisée, socialisée, enfin plus étatisée d'ailleurs que socialisée pendant
des décennies.
Et donc, si l'on met à part les petits paysans, mais qui représentaient 7 à 8%, si on met à part cela, pour l'essentiel, tout le reste dépendait de l'État. Depuis ce qu'on a appelé l'actualisation, autrement dit, depuis l'introduction de l'adoption de ces réformes économiques, l'initiative privée, par le biais d'une part des petits entrepreneurs, ce qu'on cuenta propistas en espagnol, petits entrepreneurs, auto-entrepreneurs, mais petits entrepreneurs qui sont déjà, pour certains d'entre eux, des PME. Bon, je donnerai un exemple tout à l'heure. Ces petits entrepreneurs, ces initiatives privées, etc., déstabilisent l'ensemble de l'économie. Et surtout, ont pour conséquence la montée des inégalités et la montée de la pauvreté. Ça, c'est reconnu par la plus importante, ou en tout cas une des plus reconnues parmi les sociologues cubaines, qui s'appelle Mayra Espina, qui dit c'est au moins maintenant 20%. Nous avons au moins 20% de pauvres, très pauvres à Cuba, ce qui n'était pas le cas avant. Rappelons quand même qu'on a eu une population relativement homogène et avec un niveau de vie qui était modeste, certes, mais qui assurait, disons, l'essentiel de base en termes de nourriture, d'éducation, de santé à la population. Cela maintenant, notamment les questions d'approvisionnement et d'autre part, le rapport entre les prix et les salaires a beaucoup changé. Et donc, comprenons une chose, voilà une direction et un gouvernement qui bénéficient d'une énorme stabilité pour deux raisons, parce qu'ils ont défendu la souveraineté nationale et la justice sociale. Or, cette justice sociale est mise à mal par les réformes, et elle est de plus en plus mise à mal, et elle suscite beaucoup d'opposition. Et donc, le défi déjà sur ce plan, donc le défi social, à terme est un danger politique. Pourquoi ? Parce que le fait que de nouvelles catégories sociales apparaissent, que de nouveaux intérêts sociaux soient en train de se former, entraîne nécessairement à terme l'exigence de défense de ses intérêts et donc de représentation politique. Ça n'est pas compatible avec le système politique actuel ni avec la perspective de la direction. Autrement dit, la combinaison de ces contradictions et de ces tensions bloque évidemment l'application des réformes adoptées en 2011 au 6e congrès. Et j'ajoute un élément supplémentaire avant de donner deux autres raisons. La politique d'Obama et le changement de politique américaine, hein, le soft power, etc., dont on parlera peut-être après.
Dans la deuxième partie de l'émission, oui, tout à fait.
Oui, qui est très importante. Mmh. Que fait Obama ? Que fait, du moins, l'administration nord-américaine ? Elle sélectionne le démantèlement graduel, très lent, de l'embargo en fonction de ses objectifs politiques à elle. Et comment le fait-elle ? Eh bien, elle le fait en faisant en sorte que toute l'aide qui est accordée, ou en tout cas les ouvertures qui sont faites, soient destinées à des bénéficiaires qui sont les petits entrepreneurs privés. Toute la consigne au sein de l'administration, si j'ose dire, je simplifie un peu, c'est que tout ce qui est étatique ne peut pas bénéficier de cette aide ou de cette ouverture. Et donc ça aggrave les contradictions, que ce soit au sein de l'appareil d'État, au sein de la direction, au sein du parti, et même au sein de la population. Donc tout ça fait beaucoup d'obstacles.
C'est finalement une transition extrêmement compliquée.
Très compliquée.
Je me tourne vers vous, Stéphane Witkowski. L'affaire de l'unification monétaire éventuellement discutée lors de ce 7e congrès, on ne sait pas, il n'est pas terminé, il se termine le 19 avril, en tout cas c'était évoqué comme l'une des choses possibles. Et évidemment, cette double monnaie dans le fonctionnement de l'économie cubaine, c'est un vrai frein.
Alors c'est un vrai frein, mais c'était même annoncé avant le Congrès, c'est-à-dire que dans les objectifs économiques de Raúl Castro, l'unification monétaire avait non seulement été annoncée, mais en même temps échelonnée, si on peut dire, à des échéances plus rapprochées, en quelque sorte. Donc c'est évident que avec l'ouverture notamment et le rapprochement cubano-américain, cet enjeu est une évidence absolue pour le gouvernement cubain, non seulement pour les raisons effectivement de hiatus dans le corpus social cubain, parce que ça génère un certain nombre d'injustices internes, mais aussi vis-à-vis des investisseurs étrangers et en particulier vis-à-vis des touristes aussi. Donc là encore, on peut pas fixer une date sur la réalisation de cet objectif, mais ça va de soi que c'est une des priorités.
Alors, Jeannette Abel, pour terminer cette première partie d'émission, assez rapidement, vous évoquiez la justice sociale particulièrement mise à mal depuis ces petits changements sur le plan économique. De fait, 70 000 Cubains sont partis pour les USA, les États-Unis l'an dernier. C'est la plus large vague d'immigration depuis des décennies. On a presque du mal à comprendre.
L'une des raisons est assez conjoncturelle, c'est-à-dire que aux courants migratoires habituels qui sont assez stables finalement, s'ajoute aujourd'hui la crainte chez certains Cubains que la ley de ajuste, la loi d'ajustement qui permet à tout Cubain qui arrive sur le territoire américain, pied sec, pied mouillé. Si vous parvenez pas à mettre les pieds sur la terre ferme, vous ne pouvez pas bénéficier du statut de résident aux États-Unis.
En d'autres termes, si vous arrivez en bateau, vous êtes renvoyé chez vous.
Voilà, si vous pouvez pas accoster, vous êtes renvoyé chez vous. Mais si vous avez réussi à mettre les pieds sur la terre ferme, vous bénéficiez en tant que Cubain, c'est un privilège dont ne bénéficie aucun latino-américain, de la résidence au bout d'un an et de très nombreux avantages matériels. Ça, à un moment ou un autre,
ça va
disparaître. Et donc, les gens qui veulent partir se précipitent plutôt maintenant pour en bénéficier. Alors, vous pouvez ajouter à cela les incertitudes de la conjoncture actuelle à Cuba, bien évidemment, dont tout le monde se demande un peu comment tout cela va se passer.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Jeannette Abel et Stéphane Witkowski, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur Cuba où se tient jusqu'au 19 avril le 7e congrès du Parti communiste cubain. Nous retrouvons nos invités, Jeannette Abel, politologue spécialiste de Cuba à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Stéphane Witkowski, président du Cubanuel et Cuba Doxerie, publication annuelle consacrée à Cuba. Pour se résumer, ce 7e congrès donc, qui a cours jusqu'au 19 avril, qu'est-ce que l'on peut en attendre? On a évoqué les aspects politiques, les aspects économiques avec les lenteurs dans la mise à exécution finalement des mesures qui avaient été décidées en 2011 lors du précédent congrès. C'est un congrès un peu tournant, Jeannette Abel, que oui. Ce 7e congrès.
Oui, c'est un congrès, on est à la croisée des chemins, c'est peut-être une banalité de dire ça, un peu un lieu commun. Ce qu'on sait, c'est que sur le plan institutionnel et constitutionnel devrait être entériné le fait que désormais les mandats des dirigeants ne peuvent être supérieurs à 2 fois 5 ans. Désormais, tous les mandats de direction seront limités à 2 fois 5 ans et c'est tout. Donc ça, c'est évidemment une décision déjà importante. On sait qu'il y a des discussions sur un certain assouplissement électoral. Il y a une pression de l'Église très forte, hein, de l'Église catholique très forte, pour que soit élue ou puisse être présentée une certaine diversité, on va dire comme ça. Jusqu'où ça peut aller, ça ne signifie en aucun cas un changement dans le système de parti unique, mais peut-être une certaine ouverture. On ne sait pas jusqu'où tout cela va être changé. Et enfin, sur le plan économique, incertitude. Le carnet de rationnement, par exemple, beaucoup de discussions ont lieu sur ce plan-là. Le thème général, c'est le carnet de rationnement. Il n'y a aucune raison que les gens aisés ou riches
en bénéficient.
Donc, on devrait le réserver pour les pauvres. Mais ça déclenche beaucoup de débats et c'est très mal perçu. La dualité monétaire. Ça suppose aussi, du point de vue du niveau de vie, des conséquences terribles. Donc, c'est une inconnue. Ça. Sur ce plan-là, nous ne savons pas exactement ce qui va en sortir. Mais par contre, d'autre part, une réelle décentralisation, c'est vrai, il y a des expérimentations menées dans les provinces. Donc, il y a déjà une réelle ouverture, une ouverture plus démocratique, disons-le, mais dans le cadre du système actuel.
Oui. Stéphane Witkowski.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à attendre, en particulier sur les résolutions économiques, je pense, plus que sur les changements institutionnels, quoique.
Mais résolutions économiques, on évoquait un programme de développement avec pour échéance 2030.
Objectif, oui, c'est une des.
C'est très loin. Est-ce que les Cubains vont attendre 2030?
Oui, mais ça, c'est une fonction politique, ça.
Oui, au fond, je crois qu'ils ont repris
on
un peu les réflexes. Oui, c'est ça.
Oui,
ils ont les réflexes un peu de la planification et puis en même temps, ils se projettent sur l'avenir. Oui. Les objectifs 2030, c'est une des commissions qui travaille là-dessus. Mais il y a d'autres groupes de travail qui abordent d'autres sujets, et en particulier la mise en place des réformes déjà entreprises, les objectifs du travail. Enfin, il y a d'autres aspects qui sont évoqués. Donc, il y a une espèce de volonté de se projeter sans délai et sans limite, si on peut dire.
Alors, pour ce qui est des plus et des moins, hein, des choses positives, des choses négatives, depuis que Raúl Castro a succédé à son frère, et avant d'aborder la question de la relation avec les États-Unis, le réchauffement, etc. Ce qu'on sent, Jeannette Abel, c'est une société civile qui subit, en tout cas c'est ce que l'on peut lire, une répression accrue. Il y a eu 8616 interpellations d'opposants en 2015. Ça, c'est un aspect qui se prolonge à Cuba.
Je ne dirais pas répression accrue, parce que malgré tout, d'abord, maintenant, si l'on regarde ce que dit Amnesty International, etc., des prisonniers d'opinion, comme il y en avait avant, je crois qu'il y a un changement dans les modalités d'exercice de cette politique. C'est une politique que je caractériserais comme une politique d'intimidation, de harcèlement des dissidents. Rappelons quand même qu'ils sont toujours quand même peu nombreux.
Mais dissidents au sens très large du terme, je veux dire...
Oui, le chiffre de 8000, je ne sais pas par qui il est validé, hein. Je n'ai pas ce chiffre-là. Les 8000, ce sont des arrestations de gens temporaires, par exemple ce qui s'est passé avec les dames en blanc pendant qu'Obama était là. On les arrête et puis on les relâche dans la soirée. Ça, c'est très fréquent. Et je crois que c'est ça qui caractérise aujourd'hui cette politique, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens, on n'emprisonne pas les gens, on les laisse pas en prison, parce que le prix à payer pour ça sur le plan politique international et régional est très important, et donc c'est une politique d'intimidation plus qu'autre chose, qui a une certaine efficacité bien sûr, mais ça n'est pas la même chose que la politique antérieure.
Oui, oui. Alors, la relation avec les États-Unis, le président Obama, le président américain était en visite à Cuba en mars de cette année, il y a donc quelques semaines. D'abord, ce qu'on sent, c'est que ce rapprochement cubano-américain, il ne génère pas de grands enthousiasmes côté cubain, Jeannette Abel.
Tout à fait. Moi, j'ai demandé à de nombreux participants, mais y compris des gens qui étaient là comme ça, quelles étaient leurs impressions. Et leurs impressions, c'était ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une vague d'enthousiasme populaire. Et ça, c'est pas très difficile à comprendre. L'analogie avec les pays de l'Est, l'Union soviétique, les anciens pays de l'Est, l'ancienne Union soviétique, elle est totalement hors de propos à l'égard de Cuba. Parce que les États-Unis représentent, je m'excuse de l'expression, l'ennemi héréditaire, en tous les cas. Et les gens ont peur. Et donc, c'est contradictoire. Les deux phénomènes qui caractérise cela, c'est à la fois une société civile émergente, très importante, où les jeunes ont plein de blogs, partout maintenant ça discute, etc. C'est un changement sur le plan culturel, artistique. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous organiser officiellement, vous n'avez pas accès aux médias, mais vous avez maintenant déjà un accès à Internet qui va se développer de plus en plus, puisque Google est sur place pour moderniser le réseau. Donc, vous avez ça d'un côté. D'autre part, ce qu'on a dit auparavant du point de vue du contrôle politique maintenu, et en même temps, vous avez toujours cette hantise, je dirais, du retour en arrière au demi-siècle qui a précédé pendant les années 20, et où ce pays était dans une situation désastreuse de corruption, etc., et où l'hégémonie, la domination américaine a laissé des traces épouvantables. Et il faut bien comprendre que les gens ont à la fois peur que cela revienne, en même temps qu'ils veulent des changements, mais des changements limités.
Parce que quand vous évoquez l'ennemi héréditaire que sont les États-Unis dans la vision cubaine, Jeannette Abel, et que je reprends ce qu'on évoquait à la fin de la première partie de l'émission, les États-Unis qui continuent de faire rêver avec 70 000 Cubains qui sont partis pour les USA l'an dernier, Stéphane Witkowski, on est en pleine contradiction d'une certaine manière.
Je ne crois pas qu'il y ait une contradiction. Je crois que les Cubains ont été déçus par la visite d'Obama et en particulier le discours qu'il a prononcé au Théâtre National. Les Cubains considèrent que le discours a été très brillant, très intelligent de la part d'Obama, mais peut-être un tout petit peu trop intelligent et manquant un peu de sensibilité et d'être empathie avec le peuple cubain. Car fondamentalement, ce que les Cubains reprochent aux Américains, c'est que, en fait, le gouvernement américain considère que l'objectif est le même, les méthodes ont changé. Et Roberta Jacobson, donc, qui a négocié ces accords avec les Cubains, a dit « Nous n'avons pas changé la stratégie, mais la tactique, oui. » Et d'autre part, ce qui a blessé d'une certaine manière les dirigeants cubains, c'est que Obama a en quelque sorte misé sur le futur en oubliant le passé, en oubliant 50 ans d'histoire entre Cuba et les États-Unis, en oubliant l'embargo, en oubliant le statut de Guantanamo, qui n'ont rien à voir avec les vestiges de la guerre froide. En oubliant aussi les tentatives d'attentats permanents, l'attentat contre le vol d'aviation de Cubana de Aviación, la baie des cochons. Et donc, les Cubains disent, tout ça existe, on ne peut pas faire table rase du passé. Et quand Obama a intelligemment évoqué, disons, avec les Américains et les Cubains, c'est pas une affaire politique, mais une affaire de famille. Et il a employé une expression, somos hermanos, nous sommes tous frères. Mais en réalité, comme disent les Cubains en privé, les frères, mais il y a Abel et Caïn. Il y en a un qui a voulu tuer l'autre. Donc, je crois que derrière tout ça, il y a une espèce de déception par rapport à Cuba, parce que Obama, tout intelligent qu'il soit, il est quand même prisonnier d'une mécanique de l'Empire, d'une certaine manière, et que ce voyage à Cuba s'inscrit dans une stratégie plus large du retour, en quelque sorte, d'une actualisation, si on peut dire, de la doctrine Monroe, puisque cette visite a été suivie d'une visite en Argentine et suivra une visite au Canada. Donc je crois que c'est dans cette perspective régionale qu'il faut aussi resituer cela.
Alors, finalement, cette visite d'Obama et au-delà, ce rapprochement entre La Havane et Washington, à qui cela profite le plus, Jeannette Abel?
Alors, un mot, juste vraiment un mot à propos de votre question précédente. Les contradictions viennent d'un fait simple. Dans le processus actuel de réforme, il y a des gagnants et des perdants. Mmh. Donc les perdants, pour l'instant, sont plus nombreux que les gagnants. Mais les gagnants, que ce soit ceux qui partent et surtout ceux qui restent, sont quand même économiquement très importants et socialement aussi, du point de vue du système dans son ensemble, représentent une force réelle. Ce qui explique justement...
Alors les gagnants, si on veut les nommer, c'est les militaires que vous évoquiez tout à l'heure.
Certes, une partie des militaires, les auto-entrepreneurs, les PME, et je termine sur ce point en vous donnant un exemple, l'un des petits restaurants privés très célèbres à La Havane, puisque c'est celui où on a tourné Fraises et Chocolat, un film assez connu. Ce restaurateur, je l'ai rencontré, le patron de ce restaurant, il emploie actuellement 75 salariés dans ce restaurant. Il va en créer deux autres et il m'a dit au total, finalement, j'en aurai 300 ou 400 salariés. Et je lui dis, et par rapport au gouvernement, quel problème ? Je n'ai strictement aucun problème. Mais 300 ou 400 salariés, ça commence à faire...
Ça fait beaucoup. Et de fait, ce que j'ai lu en préparant cette émission, c'est que une serveuse ou un serveur de restaurant, aujourd'hui, s'en sort beaucoup mieux qu'un chirurgien cubain.
Oui, bien sûr. Je connais un cardiologue, moi, qui a soigné de nombreux dirigeants. Je ne donnerai pas son nom, mais il est parti au Mexique parce qu'on lui a fait une proposition monétaire beaucoup plus intéressante. Concernant la deuxième question...
Qui profite le plus, le rapprochement américano-cubain?
Bon, à court terme, il profite quand même aux deux de manière très différente. Il est quand même utile pour le gouvernement cubain du point de vue diplomatique international, du point de vue de la reconnaissance. Cuba sort de son isolement très largement. Ça la permet aussi, par exemple, toutes les initiatives françaises qui ont également débouché sur l'allègement de la dette au sein du Club de Paris.
Raoul Castro qui était en visite il y a quelques mois à Paris.
Voilà. Et d'autre part, pour la politique américaine, il y a dans cette affaire un objectif très intéressant lié à ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir intelligent, qui est, ce que je trouve insuffisamment souligné dans les médias français, un changement de stratégie ou de tactique sur le plan international. Et je donne trois exemples dont fait partie la visite à Cuba. Le voyage en Argentine. Obama a rendu hommage aux victimes de la dictature.
Une dictature quand même qui a été soutenue par Washington.
Par Washington, très clair. Ô combien. Il va se rendre au Japon, rendre hommage aux victimes d'Hiroshima. John Kerry l'a déjà fait. Il a été visiter le musée d'Hiroshima et il a annoncé la visite probable d'Obama. Et enfin, en même temps, le bâton et la carotte, le bâton, le Venezuela... éditorial du Washington Post avant-hier, réclamant une intervention politique régionale au Venezuela, un pays en plein chaos, etc. Donc il y a un vrai changement.
On sort de l'ascendance de Washington sur ses relations internationales et intra-américaines pour aller vers davantage d'harmonie dans ses relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, de certaine manière. Avec cette question aussi, est-ce qu'on ne peut pas craindre un rétropédalage en novembre prochain, si jamais les Républicains l'emportent pour la Maison-Blanche?
Pour terminer ce que je voulais dire, il faut redorer le blason de la diplomatie américaine et des États-Unis en général, notamment en Amérique latine, où il avait quand même perdu beaucoup de légitimité. Ça, c'est ce que l'administration Obama est en train de faire, mais que M. Trump...
Ça, c'est le fruit des échecs de la politique américaine proche et au Moyen-Orient et ailleurs.
Voilà. Et en Chine aussi, dans la difficulté justement de contenir la Chine, qui avait été aussi un échec, et en même temps, cette volonté de quitter le pouvoir en entrant dans l'histoire, justifiant son titre de prix Nobel de la paix. Et donc, avec ce rapprochement cubano-américain, cette stratégie américaine hémisphérique, si on peut dire, il se réinsère en quelque sorte, ou il réinsère plus exactement la diplomatie américaine dans ce jeu-là. Mais je pense que, malgré tout, les Cubains considèrent qu'il y a quelque chose d'inachevé, malgré tout, dans cette visite, et que la normalisation prendra des temps, sachant aussi que les intérêts américains, parallèlement, continue d'avancer. Et c'est ça le paradoxe. Les États-Unis sont 5e partenaire commercial de l'île, alors que l'embargo perdure, que les lois extraterritoriales évincent les partenaires concurrents, si on peut dire. On a vu des pénalités pour les grandes banques, etc. Et donc, il y a un double jeu qui est là, qui est, en quelque sorte, il y a le réalisme américain qui est à l'œuvre.
Alors, il y avait un sondage tout à fait intéressant, je ne sais plus, en tout cas venant des États-Unis, je crois, sur l'image de Washington en Amérique latine, où il est tout de même démontré et prouvé que là où les États-Unis ont investi ces dernières années en Amérique, eh bien, voilà, l'image de Washington en a très largement bénéficié. Donc, peut-être aussi que cela va intervenir avec un certain décalage avec Cuba, étant donné que l'historique n'est pas le même. Donc voilà, cette question de gestion de la normalisation des relations avec les États-Unis, c'est quelque chose d'assez compliqué, Jeannette Abel. Et j'en reviens à l'histoire des républicains, éventuellement à la Maison-Blanche, et on évoquait Donald Trump, qui dans sa campagne électorale est particulièrement virulent avec ce projet, somme toute assez insensé, de construire un mur à la frontière mexicano-américaine à charge pour les Mexicains de le financer, ce mur. Il y a malgré tout un certain malaise dans les relations, aujourd'hui encore, entre les États-Unis et l'Amérique latine.
Oui. Oui, oui. Alors, le malaise n'a pas la même importance selon que l'on parle des pays qui font partie de l'Alliance du Pacifique, ce qui regroupe le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Quatre pays. Là, le malaise est beaucoup moins important. Mais ailleurs, il est très important parce que, on n'a pas le temps d'évoquer cela, mais malgré tout, les crises actuelles au Brésil, en Argentine, au Venezuela, en Bolivie, Evo Morales a quand même perdu son référendum. En Équateur, c'est moins visible, et Correa a décidé, le président actuel, de ne pas se représenter l'an prochain, s'entend bien que... Donc on a une situation dans laquelle une des interprétations, c'est quand même qu'il y a une tentative plus intelligente que par le passé de déstabiliser ce qu'on a considéré comme des régimes progressistes. On ne peut pas détailler tout cela, mais il y a un malaise. Et le malaise vient du fait que cette politique, cette tactique plus intelligente nord-américaine est plus redoutable que par le passé et plus subtile. Et donc, comme l'hégémonie nord-américaine est en déclin, tout à fait relativement en déclin quand même, sur le sous-continent, on sent bien là que le rapport de force est à la fois en train de basculer, mais on ne sait pas qui va être le gagnant in fine de l'évolution de cette situation très complexe.
Ça rebat les cartes d'une certaine manière, Stéphane Witkowski.
Je pense que ça rebat les cartes et en quelque sorte, ça permet aussi d'envisager, je dirais, une relation sur d'autres bases, en quelque sorte. Au-delà des échéances électorales américaines, cette espèce de phénomène de balancier entre... au fond, cette politique très interventionniste nord-américaine vis-à-vis du continent et ce repli sur soi, c'est quand on observe en quelque sorte l'histoire de la diplomatie américaine depuis trois siècles, il y a toujours eu ce va-et-vient. Mais que, depuis quelque temps, l'émancipation, l'affirmation de plus en plus grande de pays comme le Brésil, qui apparaissent comme de véritables interlocuteurs directs de Washington, pour mener une politique vis-à-vis des pays émergents, des pays autres.
Enfin, l'affirmation brésilienne qui a souffert un petit peu ces dernières semaines, tout de même.
Pour des raisons conjoncturelles politiques. Oui. Bon, mais je veux dire, quand je parle du Brésil, au-delà des aspects liés à une crise ponctuelle, le Brésil ne continuera pas de disparaître après cette crise politique. Il faut s'inscrire dans le long terme, et en particulier, quand vous regardez le nombre de fusions-acquisitions qui ont été faites au Brésil l'année dernière, un record absolu, des investisseurs étrangers, donc les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise partout, prennent en considération le fait qu'il y ait une récession économique, mais que, misé sur le futur, le Brésil est évidemment...
Enfin, une
voie d'avenir.
Et pour en revenir à Cuba en guise de conclusion, c'est le temps long qui prime aujourd'hui Jeannette Abel.
Long et court. Long pour ce qui est des relations avec Washington, parce que avant l'élection présidentielle, on n'aura pas ni de levée de l'embargo, je pense, ni de restitution de la base de Guantanamo, sans parler même des autres problèmes en suspens et qui sont dans la corbeille de négociation. Le temps court parce que 2016-2018, c'est une séquence historique très importante. En 2018, nous aurons une nouvelle génération qui n'aura pas forcément la légitimité révolutionnaire de la précédente et des changements inévitables. Et ils sont à l'œuvre. C'est une sorte de nœud gordien qu'il va falloir trancher, mais on ne sait pas encore très bien ce qui va en résulter.
Bon, on en reparlera. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Jeannette Abel, politologue, spécialiste de Cuba à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Stéphane Witkowski, président de Cubanuel. Michel et Cuba Doc Série, publication annuelle consacrée à Cuba. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la Chine. À demain.